30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à l'histoire de Roland Garros, celui qui a donné son nom aux internationaux de France de tennis sur terre battue, de l'aviateur à la marque Roland Garros. Roland Garros est né le 6 octobre 1888 à Saint-Denis de la Réunion. Sa famille est depuis longtemps établie dans l'île, avec des origines toulousaines du côté paternel et lorientaises du côté de sa mère. Il n'a que 4 ans quand son père, Georges Garros, décide de partir avec sa famille en Cochinchine. Georges Garros ouvre à Saïgon un cabinet d'avocat pour s'occuper notamment des affaires commerciales de ses amis commerçants vietnamiens. Sa mère assure son enseignement scolaire, mais lorsqu'il atteint en 1900 le cycle secondaire, ses parents sont contraints, en l'absence de lycée dans le pays, de l'envoyer seul en métropole pour y entreprendre ses études. À cette époque, la traversée maritime dure près de 2 mois entre Saïgon et Marseille. Dès ce moment, et jusqu'à la fin de sa vie, Roland Garros mène une vie pratiquement autonome, seul face à ses responsabilités. Victime d'une grave pneumonie, il rejoint un collège sur la côte méditerranéenne à Cannes. Il se lance éperdument dans le sport, notamment le cyclisme, qui lui feront recouvrer la santé. Il gagne Paris pour l'année de terminale en philo, qu'il prépare au lycée Janson de Sailly. Puis il réussit son entrée à HEC Paris, dont il sortira dans la promotion 1908. Émile Le Sieur, son ami et condisciple d'HEC, international de rugby à 15, le parrainera lors de son adhésion au Stade français, où il est inscrit dans la section rugby. Et s'il pratique un peu le tennis, c'est réellement qu'un amateur. Il s'initie rapidement à la mécanique et au sport automobile. Son père, qui voulait faire de lui un avocat, lui a coupé les vivres. Avec l'aide financière du père de notre condisciple d'HEC, Jacques Kellenec, ingénieur qui participe à la construction du canal de Suez, le voilà à 21 ans, chef d'entreprise et agent de l'entreprise Grégoire, dans la boutique qu'il a ouverte au pied de l'Arc de Triomphe de l'Étoile, à l'enseigne Roland Garros, automobile, voiturette de sport, sise au 6 avenue de la Grande Armée. Il conçoit à cette époque une voiture tubulaire avec le baquet Grégoire, un châssis sur lequel on a fixé 2 sièges. La révélation pour Roland Garros. Il assiste en 1909 à la grande semaine d'aviation de la Champagne. Il sera aviateur. Les bénéfices de son commerce automobile lui permettent de commander aussitôt au salon de locomotion aérienne, au Palais de la Découverte, la moins chère des machines volantes de l'époque, une Demoiselle Santos Dumont. L'appareil est dangereux à cause de son train d'atterrissage fragile qui se brise, ce qui vaut à la demoiselle d'être surnommée la tueuse d'hommes. Il n'y a pas encore d'école de pilotage, il apprendra tout seul. Il participe à de nombreux meetings d'aériens. Cela lui permet de traverser une bonne partie des États-Unis, puis le Mexique et enfin Cuba, ce qui vaudra à Roland Garros le surnom de Cloud Kisser, l'embrasseur de nuages, dans les nombreux meetings d'aviation de l'époque. Le meeting d'aviation est très prisé à l'époque. Il symbolise le modernisme de cette belle époque, au même titre que l'électricité et le téléphone. Les journalistes Mortane et Frank Reichel, l'ancien international de rugby, les écrivains Jacques Cocteau, Blaise Cindrars, se passionnent pour ce nouveau sport de vitesse. Les aviateurs sont des as, des archanges, des héros. En 1909, Blériot traverse la Manche et ses 42 kilomètres. En 1913, Roland Garros est le premier à traverser la Méditerranée, 800 km, 7h53 en l'air, évoluant à une vitesse moyenne de 101 km/h. Il atterrit à Bizerte le 28 septembre 1913 avec son monoplan Morane-Saulnier, équipé d'un moteur de 80 chevaux. Survient la guerre de 1914. Il achève en janvier 1915 la mise au point du tout premier chasseur monoplace de l'histoire, armé d'une mitrailleuse tirant dans l'axe de l'avion à travers le champ de rotation de l'hélice. Le 18 avril 1915, le sous-lieutenant Garros est en mission au-dessus de la Belgique lorsqu'il est touché par une balle de l'ADC allemande. Son avion connaît alors des problèmes de carburant, l'obligeant à un atterrissage forcé. Et il est fait prisonnier avant d'avoir pu mettre le feu à son appareil. Après de nombreuses infructueuses tentatives, il parvient à s'évader du camp de Magdebourg au bout de 3 ans. Le 15 février 1918, en compagnie du lieutenant Anselme Marchal, qui parle un très bon allemand. Il commence un périple qui les mène en Hollande, puis en Grande-Bretagne, et enfin en France. Clémenceau, vainement tenté de le garder comme conseiller auprès de l'état-major, mais le tigre doit s'incliner devant la volonté obstinée de l'aviateur. Celui-ci veut retourner au combat, un peu comme s'il considérait sa captivité comme une faute coupable. Le 2 octobre 1918, Roland Garros remportait sa 4e et dernière victoire. La veille de ses 30 ans, le 5 octobre, 5 semaines avant l'armistice, à l'issue d'un combat contre des Fokkers, son avion Spad explosait en l'air avant de s'écraser sur le territoire de la commune de Saint-Morel, dans les Ardennes, non loin de Vouziers, où il est enterré. Pourquoi le nom de Roland Garros est associé au tennis ? En effet, Roland Garros avait adhéré à la section rugby du Stade français en 1906, avec le parrainage de son condisciple d'HEC et athlète Émile Le Sieur. Et c'est ce dernier qui, en 1927, devenu président de la prestigieuse association, exigea fermement que l'on donnât le nom de son ami au stade de tennis parisien qu'il fallait construire suite à la victoire des Français aux États-Unis en 1927 pour accueillir en 1928 les épreuves de la Coupe Davis, l'épreuve reine du tennis par équipe. Il se trouve que la concession d'un terrain à la Porte d'Auteuil se termine en 1927 et la ville lance un appel d'offres auquel répondent entre autres Le Sieur pour le Stade français et Gilou pour le Racing. Et c'est le projet stadiste qui l'emporte. Le Racingman propose de s'associer aux stadistes qui acceptent et la concession leur est accordée pour une durée de 25 ans, un loyer de 20 000 francs et 6% de recettes. Comme le signale aujourd'hui le site officiel, ils garantissent l'emprunt dont ils ont besoin sur leurs biens personnels. Mais Le Sieur pose une condition, que le nouveau stade porte le nom d'un de ses amis, le pilote et stadiste Roland Garros. La proposition est acceptée sans opposition et le stade Roland Garros est inauguré le 18 mai 1928. Les internationaux de France ou tournoi de Roland Garros, ou plus simplement Roland Garros, est un tournoi de tennis sur terre battue créé en 1925 et qui se tient annuellement depuis 1928 à Paris dans le stade Roland Garros. Il succède au championnat de France de tennis créé en 1891. Organisé par la Fédération française de tennis, il se déroule lors de la dernière semaine de mai et la première semaine de juin. Il est l'un des 4 tournois du Grand Chelem, le 2e dans le calendrier après l'Open d'Australie en janvier. Suivent le tournoi de Wimbledon, se déroulant lors de la dernière semaine de juin et la première semaine de juillet, puis l'US Open, commençant à la fin du mois d'août. Les internationaux de France de tennis sont le plus grand tournoi de la saison de tennis sur terre battue et le dernier tournoi du Grand Chelem se disputant sur cette surface depuis que l'US Open a abandonné celle-ci en 1978. Le record de victoire en simple, hommes et femmes confondus, appartient à Rafael Nadal, qui s'est imposé 14 fois entre 2005 et 2022. Le dernier Français vainqueur à Roland-Garros est Yannick Noah, en 1983, il y a 40 ans. L'histoire de Yannick Noah est incroyable. Il débarque à 12 ans au tennis. Études de Nice, loin de sa famille, évolue à vitesse grand V, et à 17-18 ans se retrouve projeté dans le top 20. Il y a aussi le fait que Yannick soit métisse. Il y en avait peu dans l'histoire du tennis. Il est très charismatique. Les années 1980 marquaient le boom du tennis avec un tas de personnalités fortes. McEnroe, Connors. Il y avait 1 400 000 licenciés en France. C'était incroyable. Et à ce moment-là, le sport français ne gagnait pas grand-chose. Il y avait seulement Alain Prost, Michel Platini, Bernard Hinault. Yannick Noah est arrivé, a bousculé le monde du sport et décomplexé le sport français. Il a battu en finale le Suédois Mats Wilander. Noah commence une nouvelle carrière au début des années 1990 quand il choisit les scènes et les studios, et donc la chanson. Dans sa nouvelle activité, il connaîtra des fortunes diverses. Avant le grand départ, en 2000, avec l'album Yannick Noah, il reste une des personnalités préférées des Français. Le dernier vainqueur français avant Noah est Marcel Bernard, né en 1914, mort en 1994, vainqueur en 1946. Marcel Bernard avait été demi-finaliste à Roland-Garros en 1932 contre Henri Cochet. Chez les messieurs, Henri Cochet s'est imposé à 4 reprises. 1926, 1928, 1930, 1932, René Lacoste 3 fois, 1925, 1927, 1929, Jean Borotra une fois en 1931. Les 4 mousquetaires, Lacoste, Cochet, Brugnon et Borotra, ont remporté en 1927 aux États-Unis la Coupe Davis du nom d'un certain Dwight Davis, étudiant américain de Harvard, qui avait lancé un défi à des joueurs de tennis britanniques en 1900. Le plus titré, Henri-Jean Cochet. Il est né le 14 décembre 1901 à Villeurbanne et mort le 2 avril 1987 à Saint-Germain-en-Laye. Surnommé le magicien, il fut l'un des fameux 4 mousquetaires français qui dominèrent le tennis des années 1920 et du début des années 1930. Champion de France en 1922 et vainqueur de 16 tournois du Grand Chelem, dont 7 en simple à Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open, il est le seul joueur français avec René Lacoste à s'être imposé aux États-Unis. Il a également remporté 6 fois la Coupe Davis avec l'équipe de France entre 1927 et 1932, ce qui fait de lui le mousquetaire ayant eu le plus de succès en simple. Jean Borotra est né le 13 août 1898 à Biarritz et mort le 17 juillet 1994 à Arbonne. Surnommé le Basque bondissant, il s'est notamment imposé en simple à Wimbledon en 1924 et 1926 et à Roland-Garros en 1931. D'août 1940 à avril 1942, il est commissaire général à l'éducation et au sport du gouvernement de Vichy. Favorablement inspiré par la vie au grand air des jeunesses hitlériennes, on lui doit le triplement des horaires de la pratique sportive sur le temps scolaire. Jean-René Lacoste, dit le crocodile ou l'alligator, est né le 2 juillet 1904 à Paris et mort à Saint-Jean-de-Luz, au Pays Basque, le 12 octobre 1996. Il a remporté 7 tournois majeurs en simple. Il est devenu un industriel ingénieur et designer français, fondateur de la marque Lacoste. Il inventera la raquette métallique qui fera, sous licence Wilson, la fortune de Jimmy Connors, annonçant la révolution des nouveaux matériaux qui remplaceront les bonnes vieilles raquettes en bois pour pouvoir jouer à 200 à l'heure. Jacques Brugnon, dit Toto, est né le 11 mai 1895 à Paris et mort le 20 mars 1978 à Monaco. C'était un spécialiste de double. La coupe Jacques Brugnon est remise au vainqueur du double messieurs aux internationaux de France de tennis. Chez les femmes, la dernière victoire française à Roland-Garros est plus récente, puisque Marie Pierce a remporté le tournoi en 2000. Toutefois, il avait fallu patienter de nombreuses années pour voir une Française soulever le trophée, puisque avant elle, la dernière lauréate française était Françoise Dürr en 1967. Dans un passé plus lointain, Suzanne Lenglen et Simone Mathieu se sont imposées à 2 reprises. Pour Suzanne Lenglen, en 1925 et 1926. Pour Simone Mathieu, en 1938 et 1939. Et Nelly Landry, une seule fois, en 1948. Suzanne Rachel Flore Lenglen est née le 24 mai 1899 à Paris, où elle est morte le 4 juillet 1938. Surnommée la Divine, elle fut la première star internationale du tennis féminin. Elle s'impose 2 fois aux internationaux de France, 6 fois à Wimbledon et remporte la médaille d'or olympique du simple dames aux Jeux d'Anvers 1920. Le public l'adulait. Plus admirée que Sarah Bernhardt, plus désirée que Joséphine Baker, plus élégante qu'Anna Pavlova, la ballerine russe, elle fut sans doute entre 1920 et 1927 le personnage féminin le plus connu d'Europe. Le deuxième court principal du stade Roland-Garros porte son nom. Simone Mathieu est née le 31 janvier 1908 à Neuilly-sur-Seine et morte le 7 janvier 1980 à Chatou. Numéro 1 tricolore dans les années 1930, elle devient troisième mondiale en 1932. Elle est la joueuse française la plus titrée après Suzanne Lenglen. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle crée et dirige le corps des volontaires françaises dans les forces françaises libres, à Londres, auprès du général de Gaulle.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.